Bienvenue à la conférence Alten sur les chiffres d'affaires du deuxième trimestre 2019. Je laisse à présent la parole à Bruno Benoliel, directeur général délégué. Monsieur, c'est à vous.
Bonsoir, merci à toutes et tous de participer à notre conférence téléphonique qui concerne l'activité du premier semestre 2019. Comme vous l'avez découvert dans le communiqué de presse que vous avez probablement reçu, l'activité du premier semestre s'est inscrite dans la continuité de l'an passé. Elle est restée soutenue en France et à l'international. Alten a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,292,3 milliards d'euros à fin juin 2019, en progression de 17,5% par rapport à l'an passé. Nous avions réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard 100. En France, l'activité est en hausse de 13,4%, hors de France de 21%. Le rythme de croissance organique est resté élevé tout au long du semestre, supérieur à 12%. Ainsi, la croissance organique du deuxième trimestre est de 12,4%, après un premier trimestre à 12,6%, portant la croissance organique totale du semestre à 12,5%, 13,4% en France et 11,7% à l'international. Les acquisitions exclusivement à l'international ont contribué à hauteur de 4,3% à la croissance et le Forex à 0,7%. En effet, 27% de l'activité est maintenant réalisée en devises et ce sont quasi exclusivement le dollar américain et la couronne suédoise qui expliquent l'impact du Forex. Comme vous le savez, cette année, le premier semestre a compté un jour ouvré de moins en moyenne que l'an passé, qui a pénalisé l'activité de 0,7%. À jour ouvré constant, notre croissance organique aurait donc été de 13,2%. Cet effet calendaire aura donc nécessairement un impact saisonnier négatif sur la marge opérationnelle du premier semestre. A contrario, le second semestre devrait compter 0,7 jours ouvrés de plus que le second de l'an passé et compenser en partie l'impact négatif du premier semestre. Au second trimestre 2019, la croissance totale de l'activité a atteint 17,5% comme au premier trimestre. Nous avons réalisé une croissance de 14,3% en France et de 20% hors de France. La croissance organique du deuxième trimestre s'est élevée à 12,5%, 14,3% en France et 10,9% hors de France. Le taux d'activité du premier semestre est de 91,9%. En léger retrait par rapport à l'an passé, il était de 92,1%. C'est donc pas l'amélioration du taux d'activité qui a généré l'augmentation de la croissance. Notre taux d'activité, pour mémoire, était de 91,8% au premier trimestre et il y a été de 92% au second. Au total donc, Alten compte maintenant 35 500 collaborateurs, dont 31 200 consultants. Pour mémoire, comme je le fais à chaque fois, je vous rappelle les données passées. Nous étions 30 100 fin juin 2018, dont 26 500 consultants, et 33 700 fin décembre 2018, dont 29 600 consultants. Nos effectifs totaux ont donc cru de 1 800 collaborateurs depuis fin 2018. Les effectifs ingénieurs ont cru de 1 600 personnes, dont 1 180 par croissance organique, 260 en France et 920 hors de France, puis 420 par acquisition, toutes à l'international. Si on analyse le chiffre d'affaires par zone géographique maintenant, et qu'on commence par la France, qui reste le pays majoritaire, l'activité donc est en croissance de 13,4%, tous les secteurs d'activité progressent. Et les secteurs les plus dynamiques en France sont l'aérospatial, en hausse de 18%, grâce au groupe Airbus et aux équipementiers. Les sciences de la vie, plus 11%, grâce à la pharmacie. L'énergie, plus 14%, tant dans le nucléaire, où on a cru de 21%, que dans l'oil and gas, où on a cru de 11%, où l'activité a cru chez tous les teneurs d'ordre, à l'exception de Total. La croissance est toujours très soutenue dans le ferro-naval, 24,5% de croissance, et dans le secteur défense et sécurité, 23% de croissance. Le secteur automobile, qui représente 17% du chiffre d'affaires France d'Alten, a cru plus fortement au second trimestre, mais la croissance y reste globalement inférieure à la croissance moyenne du groupe. Chez les constructeurs, notre activité a progressé, y compris chez PSA en euros, mais elle régresse chez les équipementiers. Voilà, si on considère maintenant l'activité hors de France, par zone géographique, la croissance, comme vous avez pu le voir dans les slides qui ont dû être mis en ligne, nous avons une croissance qui est très hétérogène. En Amérique du Nord, l'activité a accru de 24,6%, dont 17% en organique. Comme en 2018, et sans surprise, les secteurs d'activité les plus dynamiques sont l'automobile, plus 33%, avec une croissance forte chez les constructeurs, mais aussi les équipementiers, chez qui nous avons ouvert un certain nombre de comptes. L'énergie, plus 55%, grâce aux activités de PMO et de consulting agile dans le domaine de l'oil and gas. Les sciences de la vie, plus 55%, grâce à la pharmacie et aux équipements médicaux. Et l'activité finance tertiaire croît de plus de 10%. En Allemagne, l'activité avait renoué avec la croissance l'année dernière. Nous sommes toujours en croissance organique ce semestre, malgré un jour ouvré de moins au deuxième trimestre, donc pour l'ensemble du semestre. Croissance organique est de 4,4% ce semestre, qui a légèrement ralenti au second trimestre, qui sera à peu près stable si on retraitait des frais jours ouvrés. L'activité a cru aussi bien dans le secteur automobile, qui représente 46% du CA allemand, à hauteur de 5,5%, et de 5% dans l'aérospatiale. L'activité dans l'aérospatiale est surtout en progression avec le constructeur, pas tellement chez les équipementiers. Quant aux activités TechDoc, dont je vous avais parlé l'an dernier, elles se sont stabilisées et donc n'ont donc pas pénalisé, comme elles l'avaient fait en fin d'année passée, la croissance allemande. En Scandinavie, la croissance est de 21%, dont 11% organique, malgré un jour ouvré de moins également. En Finlande, la croissance a atteint 13%, la Finlande qui représente 20% du chiffre d'affaires de Scandinavie, croissance réalisée quasi exclusivement dans le secteur des biens d'équipement. En Suède, notre croissance est de 10%, grâce au secteur des télécoms, où Ericsson continue à progresser assez sensiblement. Et nous avons engagé des diversifications sectorielles qui commencent à porter leurs fruits. Le secteur des biens d'équipement industriels, par exemple en Suède, a progressé de plus de 40% et représente maintenant 10% de l'activité suédoise. Quant au secteur prépondérant, sans surprise, automobile et poids lourds, il a ralenti et croît de 6% et représente un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires suédois. En Espagne, le rythme de croissance organique a ralenti au second trimestre, pénalisé également par un jour ouvré de moins. En Espagne, nous avons réalisé une croissance de 8,3%. Seul le secteur de la défense croît de plus de 13%. Tous les autres secteurs significatifs progressent de 4 à 8%. Il est vrai que même si 8% reste un taux de croissance très satisfaisant, dans l'absolu, on s'habitue aux chiffres plus élevés et l'Espagne a réalisé une performance moindre que les autres pays cette année. En tout cas, pour l'instant. En Europe du Sud toujours, mais cette fois-ci en Italie, le rythme de croissance est maintenu à un niveau particulièrement élevé malgré un jour ouvré de moins. L'activité est tirée par le secteur finance tertiaire, plus 30, défense et spatiale et sécurité 32%, électronique plus 20%, hautes industries plus 25%. L'Italie qui a accru à 20% croissance organique de façon stable tout au long du semestre. En zone Asie-Pacifique, le périmètre croît toujours assez rapidement, de façon organique, toujours tiré par la Chine et l'Inde, pour les marchés locaux. Enfin, au UK, la décroissance de 4% marque des disparités sectorielles, comme vous le savez. L'oil and gas, qui représente plus que 5% du chiffre d'affaires au UK, est toujours en recul de plus de 40% par rapport à l'an passé. Mais d'autres activités oil and gas se développent à partir d'autres filiales dans le monde. A contrario, le nucléaire, grâce au projet EPR, est en hausse de 17%. Le chiffre d'affaires aérospatial croît très fortement, 35%, grâce aux équipementiers. Quant à l'automobile, qui avait réalisé une performance très forte l'an passé, elle a fortement ralenti puisque la croissance est proche de zéro. Enfin, le secteur finance tertiaire régresse de plus de 15% du fait du contexte lié au Brexit. Au Benelux, en Belgique d'abord, l'activité s'est stabilisée après le recul du premier trimestre, dont un jour ouvré de moins qu'en 2018 également, du fait de l'arrêt de gros projets dans le secteur finance. Certains secteurs sont en baisse sensible, finance moins 20, auto moins 8, alors que d'autres sont en très forte hausse, ferro plus 30, énergie plus 70, électronique multimédia plus 24. Donc comme vous le voyez en Belgique, les plus compensent à peu près les moins. Nous avons toujours dans ce pays un taux d'intercontrat un peu supérieur à la moyenne qui est en train de se résorber. En fait, les retours importants de projets, ça c'est lié à l'activité Work Package, quand il y a beaucoup de gros projets qui s'arrêtent en même temps, ça représente un volume d'ingénieurs significatif pour lesquels, effectivement, la capacité à redémarrer de nouveaux projets instantanément peut poser difficulté. Aux Pays-Bas, croissance stable à 11%, tirée par le secteur de l'électronique multimédia, mais pas simplement. D'autres activités sont également en hausse sensible. Le secteur finance tertiaire qui se développe et qui représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires des Pays-Bas. Le secteur des autres industries, croissance de plus de 20%, et les sciences de la vie, en croissance de plus de 25%. Voilà. Si on analyse maintenant notre activité sous l'angle sectoriel pur, tous les secteurs d'activité cette année sont en croissance, même l'oil and gas. Donc l'automobile, qui représente près de 20% du chiffre d'affaires, a quand même cru de 9% dans la continuité de l'an passé. Chez les constructeurs, notre croissance moyenne est de 10%, qui masque des grandes disparités. Nous avons des taux de progression très forts chez FCA, Toyota, Renault, Volvo, Volkswagen, Porsche, par exemple, et PSA, et des baisses sensibles chez des constructeurs comme Tata JLR, Ford ou BMW. Chez les équipementiers, où la croissance est en moyenne de 8,5%, les tendances sont également très diverses. Certains sont en très forte hausse. Je citerai simplement Bosch, Magna, Faurecia et d'autres en baisse, certaines fois sensibles, comme Conti, Valeo, Magneti ou ZF. Le secteur du ferro-naval est toujours en très forte croissance, plus 33 dans le ferro et plus 40 dans le naval. L'aérospace, 16% du chiffre d'affaires, croît toujours à un rythme soutenu, plus 17. Croissance réalisée principalement avec le groupe Airbus chez les constructeurs et chez les équipementiers. Nous avons réalisé une percée importante chez de nouveaux clients. Les activités de défense et sécurité, pour 5% du chiffre d'affaires environ, sont en progression de près de 17%. L'énergie a cru de plus de 10% cette année. La croissance est accélérée dans l'oil and gas. Elle était de 5% au premier trimestre. Elle a atteint 12% sur le premier semestre. Et donc près de 18 sur le second trimestre. Alors, je vous concède que l'effet de base est quelque peu favorable, néanmoins, c'est la première fois depuis 2014 que nous assistons à un véritable retournement de l'activité dans ce secteur. Tous les comptes sont en croissance, sauf Total. Le rythme de croissance est également accéléré dans le nucléaire, à plus de 20% grâce aux activités d'EDF. Les autres industries, qui représentent 5,7% du chiffre d'affaires, ont vu également leur rythme de croissance s'accélérer à près de 18% au Q2, soit près de 16% en moyenne sur le premier semestre, grâce au secteur des biens d'équipement industriels, qui se développe non seulement dans certains pays comme la Finlande, où nous sommes bien implantés, mais également dans des pays où nous l'étions moins, comme je vous l'ai indiqué. Les télécoms ont réalisé une bonne performance au Q2, plus 13%, portant la croissance du premier semestre à près de 9%. Néanmoins, malgré un développement assez fort du business avec Ericsson, que ce soit en Suède, aux États-Unis ou en Inde, les équipementiers sont tous en recul et représentent dorénavant moins de 30% du secteur des télécoms. A contrario, les opérateurs sont stables ou en croissance assez sensible, et ce, malgré le peu de projets significatifs dans la 5G aujourd'hui. Un projet qui devrait néanmoins finir par être lancée puisque les licences sont en passe d'être accordées et le réseau devrait commencer à être déployé. En tout cas, les premières études vont démarrer à partir de 2020. L'activité électronique multimédia, 6,6% du chiffre d'affaires, a cru de plus de 11% grâce aux activités du secteur microélectronique et semi-conducteur. Sans surprise, on retrouve les comptes traditionnels, ASML, Infineon, Advantest, HP, et au secteur du e-commerce, Amadeus par exemple. Le secteur finance tertiaire, 18,5% du chiffre d'affaires, est en hausse de 7,5%, avec un rythme de croissance qui a légèrement ralenti au second trimestre. Concernant maintenant les acquisitions, nous avons réalisé un certain nombre de petites acquisitions au deuxième trimestre. Je vous avais présenté les trois premières acquisitions de l'année lors du dernier call. Nous avons en plus acquis au mois de mai une société au UK, enfin principalement au UK puisqu'elle a des filiales en Australie, aux États-Unis notamment. Une société qui fait du product data management dans le secteur automobile, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros l'an passé, qui compte 170 personnes. En Inde, nous avons complété la petite acquisition que nous avions réalisée l'an dernier dans le domaine des semi-conducteurs et des chips et ASIC par une société que nous venons d'acquérir et qui réalise 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui totalise 260 personnes. Quant au Danemark, nous avons réalisé une acquisition d'une toute petite société, 45 personnes dans les métiers du Life Science, qui bénéficie de référencements très intéressants, raison pour laquelle nous avons décidé de l'acquérir. Voilà, en 2019, compte tenu du premier semestre qui a réalisé une performance satisfaisante, et comme le contexte économique semble toujours favorable, nous réaliserons une croissance organique satisfaisante. Il est probable qu'elle sera à deux chiffres sur l'ensemble de l'année. Si les recrutements du second semestre se portent bien et si l'activité continue à se dérouler dans les conditions à peu près identiques à celles que nous connaissons en ce moment. Voilà, je vais laisser la parole maintenant aux participants, si vous voulez bien avoir la gentillesse d'ouvrir le call pour que les personnes présentes puissent poser leurs questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur vos cahiers téléphoniques. Nous avons une première question de Grégory Ramirez de Bryan Garnier.
Oui, bonsoir Bruno.
Deux
petites questions. D'abord, bon, je comprends que, d'après ce que tu dis, que le contexte de recrutement reste favorable. Moi, je me posais quand même la question si, pour l'instant, il n'y a pas de zone de surchauffe au niveau du recrutement dans chacun des pays dans lesquels Alten est présent. Et puis, du moins au niveau de la capacité à recruter. Et puis, deuxième question, c'est sur les acquisitions. Est-ce que tu pourrais donner quelques indications sur la rentabilité des trois sociétés acquises ?
Alors, sur le recrutement, non, il n'y a pas de warning particulier. Bon, c'est pas facile, compte tenu du contexte. Mais là, il n'y a rien de nouveau. Les techniques de recrutement aujourd'hui sont très diverses. Et pour autant que je sache, il n'y a pas d'informations qui remontent des business managers ou des chargés de recrutement sur des difficultés importantes rencontrées sur le terrain qui viendraient contraindre l'activité commerciale. Concernant les acquisitions, oui, je peux compléter sur les indications de marge, étant entendu que, compte tenu des tailles des sociétés, les systèmes de gestion sont relativement rustiques, pour ne pas dire absents, et que ce sont des marges que nous reconstituons nous-mêmes lors des due deals. Alors, la société qu'on a rachetée au UK a un EBIT de 4%. celle qu'on a rachetée en Inde à un EBIT de 11%. Il faudra probablement qu'on investisse dans la force commerciale. Et celle qu'on a rachetée au Danemark à un EBIT de 4%, mais avec un taux d'intercontrat assez élevé. Si on est capable de le réduire rapidement, l'EBIT remontera rapidement entre 8 et 10.
Merci, Bruno.
Je t'en prie.
La question suivante vient de Cher Les Pépitas de Odin.
Oui, bonsoir, Bruno. Petite question sur la marge du S1. On sait qu'il y a des effets calendaires qui devraient jouer défavorablement. Je comprends aussi que le marché allemand a été peut-être un petit peu compliqué sur le S1. Et par ailleurs, j'imagine qu'il y a un effet positif, légèrement positif d'IFRS 16. Est-ce que vous pourriez nous aider à quantifier un petit peu ces impacts ?
Bon, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la marge du premier semestre, parce que ce n'est pas l'objet du call, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, quand on perd un jour ouvré, ça fait à peu près 0,7 sur le chiffre d'affaires et 0,5 à 0,6 sur la marge. Bon, ça, c'est purement mécanique, hein. Enfin, bon, 50-70. C'est des situations qu'on a déjà vécues des années passées. Si on prend la marge de l'an passé et qu'on enlève déjà ça, ça donne une idée de l'atterrissage de marge, hein, toute chose égale par ailleurs. Ensuite, effectivement, le premier semestre a été compliqué en Allemagne, chez nous et chez d'autres. La marge allemande ne sera pas satisfaisante ce semestre, mais elle ne sera pas pire que l'an passé, parce que l'an dernier, on avait rencontré une difficulté dans une filiale qui progressivement se redresse. Donc même si elle reste faible, elle ne sera pas de nature à impacter, en tout cas en différentiel, par rapport à l'an passé, significativement le taux de marge du premier semestre. Voilà. Après, on a aussi quelques effets positifs. Donc, si on considère que les plus compensent les moins, ce qui est vraiment un raisonnement extrêmement simpliste, hein, il peut ne rester en gros que l'effet calendaire. Bon. Maintenant, les comptes ne sont pas définitivement arrêtés, hein, du premier semestre. Il y a des arbitrages sur les projets, notamment, qui sont toujours en cours. Mais il n'y aura pas de surprise particulière sur la marge de la chanson.
Ok, c'est clair. Et peut-être une deuxième question sur le secteur financier. Vous mentionnez un petit ralentissement. Est-ce qu'il y a des comptes en particulier qui vous viennent à l'esprit justement sur ce ralentissement ?
Pas dans le secteur de l'assurance, mais dans le secteur bancaire. Alors, je ne parle pas du UK où là c'est très net, mais on le voit aussi en France et dans d'autres pays. En fait, la demande dans le secteur bancaire est moins forte cette année qu'elle l'était l'an passé. On mesure assez précisément au nombre d'appels d'offres reçus, à la taille des appels d'offres. Donc ça devient un peu plus concurrentiel, forcément. Et effectivement, la croissance qui était plus élevée l'an passé, le rythme de croissance a légèrement ralenti. Et on n'anticipe pas que... Je pense qu'on aura un second semestre qui sera cohérent avec le deuxième trimestre, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas une réaccélération de la croissance dans le secteur bancaire au S2.
Oui, c'est très clair. Entendu. Ah, merci Bruno.
Je t'en prie.
Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur vos clavier téléphonique. Nous avons une question de Laurent Dur de Kepler Cheuvreux.
Oui, non, en fait, j'avais deux questions. Je voulais revenir un petit peu sur les recrutements du T2 par rapport au T1. J'ai l'impression qu'il y a, il y a un peu de saisonnalité sans doute, mais une progression moins nette des headcount. Est-ce que il y a toujours un problème de churn? Si tu pouvais un peu nous donner de la granularité là-dessus, est-ce que tu attends éventuellement sur le trimestre à venir? Après, j'ai un follow-up.
Alors, c'est vrai. les recrutements, enfin plus exactement le recrutement net du deuxième trimestre a été moins favorable que celui du premier trimestre, et de loin même. Et si on compare à l'an passé, moins favorable aussi au Q2 2018, alors que le Q1 2019 était à peu près en ligne avec le Q1 2018. Bon, alors le Q2 2018, il est chez extraordinairement élevé, au sens quasiment étymologique, parce qu'on n'a jamais réalisé des recrutements aussi importants au Q2, compte tenu de la structure du trimestre. Néanmoins, on se retrouve un peu dans la même configuration que celle qu'on a connue en 2017, où on avait eu un Q2 plutôt plus faible en recrutement net, et ensuite on avait eu une fin d'année plutôt brillante avec beaucoup de recrutements sur fin septembre-octobre. Alors là, moi je ne peux pas anticiper sur les recrutements de fin septembre-octobre parce que évidemment c'est trop tôt. Ce qui s'est passé au second trimestre, c'est que, et surtout en France, on a eu une accélération des départs à fin mai, alors que le début du trimestre s'est très bien passé. On a eu pratiquement à fin mai autant de départs qu'on en a habituellement à fin juin. Donc là, il va falloir qu'on regarde aussi en détail sur fin juin par rapport aux entrées. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à un certain nombre de facteurs. Déjà, on a pas mal de gros projets qui se sont arrêtés dans le domaine de l'aéronautique sur le second trimestre et qui, pour l'instant, n'ont pas été... les ingénieurs n'ont pas complètement été réembauchés sur des nouveaux projets. Alors, ça a eu quoi comme conséquence? Ça a eu une conséquence sur le recrutement, puisque les managers ont anticipé les retours et ont donc moins recruté. Moins recruté avec plus de gens qui partent, forcément, ça crée un déséquilibre. On a, en lien avec la question qui m'a été posée juste avant, un petit ralentissement dans le domaine de la banque finance assurance, ce qui fait que habituellement, les managers commerciaux qui sont autorisés à recruter, même s'ils n'ont pas de projet précis pour les consultants, ont évidemment de même ralenti le rythme de recrutement et ont minimisé le niveau de risque pour ne pas faire monter l'intercontrat. On a, et c'est toujours sur la France, parce qu'en fait c'est surtout là que ça se passe, un phénomène qui provient de l'augmentation de l'offshore. C'est-à-dire que on peut presque faire un ratio entre le nombre d'ingénieurs recrutés en France versus le nombre d'augmentation d'effectifs en offshore sur des métiers qui se touchent notamment au domaine de l'automobile. On a encore un peu augmenté la part d'offshore, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, quand un projet est gagné en France, pas tous, mais en tout cas certains, et plus qu'il y a deux ans, et même plus que l'an passé, il peut y avoir une part d'offshoreisation. Ce qui conduit en fait à prendre le chiffre d'affaires en France, mais à faire réaliser une partie du projet par des effectifs qui ne sont plus en France, mais qui sont pour l'essentiel d'ailleurs au Maroc, mais aussi en partie en Inde. Ce qui fait qu'en fait, dans la progression des effectifs, sur la France, ça se voit pas, même si le chiffre d'affaires est là. Et ça explique, quand on regarde France internationale, la progression des effectifs, le fait qu'il y a un petit déséquilibre au détriment de la France.
Et là, le chiffre d'affaires, tu le reconnais en France.
Ouais.
C'est ça. Voilà. Et oui, excuse-moi, ta dilution, en fait, j'imagine que, comme tu nous l'avais dit les trimestres d'avant, tu as plus de croissance, même à l'international, de la partie à bas coût. Est-ce que tu as essayé de, tu aurais un chiffre un peu précis, à savoir pour 10% à prix égaux, hein, mais pour 10% de hausse des effectifs, ça se translaterait en combien de chiffres d'affaires en plus par rapport à la dilution que tu as d'avoir de plus en plus d'effectifs offshore? Est-ce que tu perds un point, deux points aujourd'hui?
Un point, deux points, tu parles en...
Ben, en croissance, parce que si... Ouais, voilà, si tu avais des prix onshore et offshore stables, ce qui n'est, je pense, pas le cas, ce que je cherche à estimer, c'est ce que tu perds en croissance du fait d'avoir plus de... En fait, ta translation d'effectifs en chiffre d'affaires, elle n'est pas directe parce que tu recrutes plus en zone où tu vas avoir des prix plus bas.
De toute façon, il y a une façon assez simple de répondre à la question, même si je n'ai pas le chiffre comme ça. Au Maroc, pour les activités offshore, enfin nearshore, on a fait plus 115. Et en Inde, plus 130. Ça fait 250 personnes à peu près. Alors, ça, c'est sur le trimestre. Donc, on peut prendre une moyenne hein, qui fait 125-130 pour regarder l'impact. Et ça, il faut le mesurer par le différentiel de prix de vente. Et ça donne à peu près le chiffre d'affaires, entre guillemets, perdu. Et c'est un raisonnement très théorique. Pourquoi il est très théorique? C'est que, en réalité, si on n'est pas capable de répondre à une demande où le prix moyen de TP est d'un certain niveau, en général inférieur à 300 euros, de toute façon, on perd le projet, puisqu'on aura toujours un concurrent qui sera capable de le prendre sur ces niveaux de tarifs. Certains d'ailleurs, je ne pense pas à des gros, mais des plus petits, le font même en local. À quelle marge, je ne sais pas, mais le fait est, c'est que... Donc, en réalité, le débat du nearshore et de l'offshore, tant qu'il permet de défendre des parts de marché, c'est-à-dire d'être en capacité de répondre positivement à un client dans le respect de l'équation économique, en fait, on maintient un niveau de chiffre d'affaires qu'on aurait perdu sinon.
En revanche, oui, j'ai bien compris. Oui.
Prosélytisme, qui consiste à aller rencontrer les clients pour leur dire by the way, si on pouvait faire ceci, on peut prendre le marché 10% moins cher ou 15% moins cher en le mettant en offshore, là ça devient du cannibalisme de marge. Ce qui explique qu'on répond aux demandes clients, aux exigences de productivité, etc. De toute façon, on est là pour ça. Mais on n'ira pas faire prosélytisme, indépendamment du fait que ça pose. Les montées comme ça, très importantes sur des centres nearshore, comme c'est le cas en ce moment, ça pose de gros soucis d'organisation et de logistique. Il faut trouver les locaux, il faut les équiper, il faut mettre des équipements informatiques en place, des liaisons télécom, il faut former les gens, il faut gérer les ramp-up, etc. Donc c'est pas non plus... aussi simple de basculer des parts d'activité importantes de la France ou de l'Allemagne sur le Maroc ou sur l'Inde.
Et du coup, sur ton prix moyen, parce que aujourd'hui, j'imagine que tu as des hausses de prix sur des effectifs qui sont onshore, mais tu as une partie de dilution justement de ce basculement vers l'offshore. Tu arrives quand même à avoir un prix moyen qui est stable ou pas?
Non, du fait du basculement sur l'offshore et sur le nearshore, le prix moyen, après il faut le regarder par. Il faut plus le regarder par secteur et par offre, parce que ça touche essentiellement les secteurs de l'aéro et le secteur de l'automobile. Il y en a très peu dans les télécoms aussi. Bon. Mais il y en a moins dans les autres secteurs d'activité. Et donc là, sur ces secteurs d'activité, oui, on voit une baisse des prix, on voit une baisse des prix financiers. Pas commerciaux, mais financiers.
Oui, oui, j'ai bien compris.
Oui, ouais, tout à fait.
Et en fait, après, quand tu regardes par rapport à ces projets-là, ton coût moyen d'effectif que tu mets en face, tu arrives à regagner de la marge ou pas? En pourcentage, hein, je parle pas en euros.
Alors, en pourcentage, oui, parce que la construction, les prix sont construits de telle façon qu'on protège un taux de marge brute minimum. Donc, même si on bascule une partie de l'activité en nearshore, on va réaliser, selon les projets, entre 30 et 35, 40, certaines fois, % de marge brute, qui sont des marges brutes projet, ce qui n'est pas la marge brute société, puisqu'ensuite, cette marge brute, elle est obérée par l'intercontrat, elle est obérée par les coûts de formation, elle est de ramp-up, elle est obérée par les coûts d'investissement en locaux qui ne sont pas tous utilisés, etc., etc. Donc je parle vraiment des marges brutes sur projet, j'allais presque parler comme dans l'industrie, les coûts directs sur projet. On arrive à maintenir les taux de marge, voire dans certains cas à les augmenter un peu. Maintenant, la conséquence de cette évolution du business, c'est quand même que le front est en Europe, France, Allemagne, que les directions techniques qui sont face aux clients sont en Europe, donc payées au prix des Européens, et que l'activité commerciale est en Europe aussi. Donc au global, il faut vraiment qu'il y ait des efforts de mutualisation qui soient faits pour maintenir en euros le même niveau de marge.
Oui, ça c'est sûr, j'ai bien compris. Alors j'ai une dernière question, assez générale. Je ne sais pas si tu peux partager avec nous le... un retour client indirect ou ton sentiment sur ce qui est en train de se passer et qui pourrait se passer entre le rapprochement entre Cap et Altran et les risques éventuellement s'il y a une accélération de l'offshore de leur part sur l'Europe.
Alors franchement, c'est pas que je veux éluder la question, mais je crois pas être compétent pour y répondre parce que je ne connais pas les modalités d'intégration de Cap dans Altran, d'Altran dans Cap, pardon, les projets ou les métiers ou les offres sur lesquels ils vont essayer de développer des synergies, quelles conséquences chez les clients, parce que ils peuvent se retrouver pour certains clients avec des positions de marché très élevées, voire trop élevées. Est-ce que les clients vont l'apprécier comme ça ou est-ce qu'ils vont raisonner par métier? Parce que les métiers de Cap dépendent plus souvent des DSI, alors que nous, on dépend des métiers, enfin des directions techniques. Franchement, je ne saurais pas dire.
C'est trop tôt, en fait. Ok, et, parfait. C'est... Merci
c'est
beaucoup.
Trop tôt, ouais. Je ne suis même pas sûr que... après, il faut voir comment ça se décline, mais il faudra voir comment c'est vécu sur le terrain au bout de 6 mois, 1 an.
Ouais, mais pour l'instant, c'est pas... C'est pas un sujet de stress chez vous?
Non, pas du tout, non.
Non, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup.
Je t'en prie, non.
La question suivante vient de Derek Marcon, de la Société Générale.
Salut Bruno, c'est Derek. Super. Pour reprendre la question de Laurent sur les Nesta Firing, juste pour vérifier le chiffre, en fait, si tu avais fait 957, si mon chiffre était bon pour le Q1, ça veut dire que tu as fait 223 au Q2, c'est ça?
C'est très bien, 226.
Et alors, si je continue sur les Nesta Firing, comment tu réconcilies en fait les commentaires que tu faisais par secteur pour la France, qui montrent même pour l'auto une accélération Q2 versus Q1, et le fait qu'en fait, ton net staff hiring au Q2 2019 en France, il est négatif.
Parce qu'il y a un double effet. Il y a l'effet de l'embarquer. Il y a le fait qu'il est là et assez fort. Le net staff hiring, c'est une photo au 30 juin. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on était quasiment stable. Sur le trimestre, voire en augmentation puis en décroissance, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que les effectifs ont continué à augmenter jusqu'au 15 mai à peu près, et après on a pris une vague de démissions importante fin mai, début juin. Donc ces gens-là ont continué à produire pendant deux mois sur trois, et enfin, comme ça rejoint la question précédente de Laurent, sur les projets nearshore ou offshore, le chiffre d'affaires est porté par la France. En fait, les ADC interviennent en sous-traitance de la France.
Et alors, du coup, quand tu regardes, parce que effectivement, ce qui est intéressant, c'est la photo finish à fin juin, quand tu fais l'exercice de calcul de la croissance embarquée pour le second semestre, donc sans nouveau net staff hiring au Q3, Q4, ça te donne quoi en fait?
Okay. Ça, on l'a pas fait comme ça, on a pris des projections d'activité.
Pour valider le 7,5-8 du H2, c'est ça?
Pour valider quoi, pardon?
Pour valider le 8% at least, enfin au moins de croissance organique au H2.
Oui.
D'accord. Ok. Et la dernière question, c'est sur la
France. Franchement, je pense qu'on les fera, hein, comme les 8 minimum. Je ne suis pas très inquiet.
Ah ben, c'est toi qui as dit 10% minimum sur l'année. Moi, je fais les maths. Je fais la moyenne. Et sur la France, est-ce que tu peux donner la croissance organique au Q2 dans l'auto? Tu disais qu'elle avait accéléré par rapport à Q1. Est-ce que tu peux nous la donner pour Q2? Peut-être.
Alors là, je n'ai pas de chiffre là.
Non, bah plus tard, sinon par email, c'est pas grave.
Ouais, je te donnerai plus tard.
Ça marche. Merci Bruno.
Je peux le donner au niveau groupe, hein, si vous voulez, parce que ça, je l'ai, mais parce que au niveau groupe, évidemment, à périmètre échange constant, dans l'auto, on avait fait 9,7, je ne sais pas de bêtises, hein. On a fait 9 au Q1, je crois, et un peu plus au Q2. Bon, on est en dessous des niveaux de croissance dans l'auto du groupe. Hein. Donc ça fait maintenant, je dirais, un an et demi que ça dure. Après, ça reste des niveaux de croissance qui sont très élevés. Hein. On s'habitue hein, quand on analyse au taux de croissance à deux chiffres, mais c'est déjà un gros effort de faire 9 ou 10.
Okay, bah surtout dans le secteur auto, vu les annonces qu'il y a eu au premier semestre, on comprend bien que c'est un environnement compliqué. Merci Bruno.
Je t'en prie, Eric.
La question suivante vient de Anthony Dick de Portland Park.
Oui, bonsoir Bruno. J'avais quelques questions pour ma part. Pour revenir un peu sur l'accélération de la croissance en France au Q2, est-ce que on trouve là principalement un effet calendrier ou est-ce que vous avez eu aussi de la montée en puissance de certains projets qui pourraient se perpétuer sur l'année? Est-ce que là, peut-être aussi, les recrutements pourraient vous brider un peu dans la poursuite de cette dynamique? Et ensuite, j'avais une deuxième question, c'est sur le secteur aéro, qui reste toujours très dynamique sur ce semestre. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur 2020? Est-ce qu'on peut s'attendre toujours à un très fort dynamisme sur les projets, notamment dans le digital, etc.? Est-ce que ça, c'est suffisant pour encore tirer une forte croissance l'année prochaine? Merci.
Alors, je vais commencer par répondre à la seconde question, parce que là, c'est impossible de répondre. Qu'on fait 17% de croissance dans l'aéro l'an prochain, objectivement, ça me paraît inatteignable, parce que il y a beaucoup de gros projets qui ont été lancés ces deux dernières années, et dans le portefeuille d'appel d'offres, aujourd'hui, il y a moins de gros projets en volume, qui représentent plusieurs millions d'euros. Il y a des gros sujets qui ont été lancés effectivement dans le digital, dans le data science, dans le manuf engineering. Il y a des sujets qui tournent aussi autour des sujets de conception qui sont en cours. Franchement, je ne peux pas répondre précisément parce que pour ça, il faut connaître les budgets d'investissement prévisionnels de nos clients pour 2020 et je ne pense pas qu'ils les ont encore mis en œuvre. Et ensuite, le cadencement de leur redistribution ensuite dans les directions R&D et techniques. Donc ça, on ne le saura que, on le verra que l'année prochaine. Maintenant, je ne pense pas qu'on maintiendra un taux de croissance aussi élevé. Voilà, c'est mon sentiment dans l'aéronautique. Après, vous m'avez posé une question sur l'automobile. Bon, sur la France.
Non, c'est... Oui, c'était sur l'accélération de la croissance en France au T2 par rapport au T1.
C'est dû, d'une certaine façon, ça rejoint la question qu'a posée Eric, c'est-à-dire que l'accélération. Alors, c'est pas dû à un effet calendrier, hein, parce que je crois qu'il y avait 60 jours au Q2 en France l'an passé, il y a 60 jours au Q2 cette année, donc il n'y a eu aucun effet calendaire. Le delta de cet effet prix est relativement négligeable par rapport à l'an passé. Le taux d'activité. Il est aussi comparable à peu de choses près à celui de l'année dernière. Bon, c'est lié à l'empilement des croissances réalisées jusque fin du premier trimestre. Donc ça a constitué un portefeuille de croissance embarquée important. On a, comme je vous l'ai expliqué, indépendamment du fait qu'on a fait une très légère décroissance en effectif, en réalité, si on raisonne en nombre de personnes sur projet, continue à augmenter le nombre d'effectifs au travers de la sous-traitance offshore. Il y a eu quelques augmentations de prix qui ont dû jouer, donc ça explique l'accélération de la croissance. Après, ce qu'il faudra voir, c'est comment va évoluer le recrutement sur Q3, parce que le fait de ne pas avoir augmenté l'effectif en France sur Q2 nécessairement a un impact sur la croissance embarquée de Q3, qui porte les effets bénéfiques des croissances embarquées de fin 2018 et du Q1, mais en moyenne, c'est comme si, on avait, enfin, c'est pas comme si d'ailleurs, la courbe s'est aplatie à la fin du premier trimestre, enfin à la fin du deuxième trimestre en l'occurrence. Donc ça, ça pourra avoir un effet, non pas je pense sur la croissance du Q3, ou marginalement, surtout qu'en plus le Q3 est obéré en termes de production par les congés payés, mais sur le Q4 en France, si Q3, enfin si les recrutements Q3 restent assez à tonne.
D'accord, merci. Et juste une dernière fois, est-ce que vous pourriez rappeler les recrutements du Q2 en France et à l'international et organique versus externe?
Oui, bien sûr. Alors, au Q2, donc on a les recrutements nets ont été de 266 personnes à l'international et de moins 40 sur la France en vision 30 juin. Et on a acquis 420 personnes qui sont tous sur l'international.
D'accord. Donc aussi en organique à l'international, on est aussi en décroissance d'effectifs nets.
Disons que on n'est pas en décroissance d'effectifs, on est en moindre croissance d'effectifs par rapport au premier trimestre. On avait effectivement recruté à l'international 660 personnes.
Ah, d'accord. Ok, très bien. Et juste, peut-être une dernière question sur le taux de turnover.
Le taux de turnover, pour l'instant, il est stable. Hein, il est toujours aux alentours de 24-25. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a absolument pas de changement de tendance. Le nombre de départs important fin mai, comme ça joue que sur un mois... Pour l'instant, il n'est pas de nature à avoir une incidence sur le taux de turnover. Après, on verra si jamais on continue à avoir plus de départs qu'on en a statistiquement à la fin de chaque mois et les mois qui viennent, voilà qu'on se pose une question sur le turnover. Mais là, vraiment, il n'y a pas de warning particulier de la part des business managers, comme ça avait été le cas en 2017. Sur des velléités de départ plus importantes que prévu des ingés, d'autant qu'on a mis en place un réseau de chargés RH, des personnes qui sont chargées de rencontrer, interviewer les ingénieurs de façon régulière pour savoir s'ils sont contents, leur projet, s'ils souhaitent évoluer, de secteur d'activité ou de projet, etc. Et c'est pareil, le taux de satisfaction est stable.
Ok, parfait. Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonsoir.
La question suivante vient de Mathieu Lavillonnière de Invest Security.
Oui, bonsoir. J'avais juste une question sur l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur l'activité là-bas? J'ai subi un petit ralentissement. J'ai cru comprendre que c'était lié à l'auto-constructeur, mais je serais intéressé à avoir un petit peu plus de détails là-dessus et savoir en termes de dynamique si on doit attendre plutôt une poursuite du ralentissement ou si c'était des phénomènes plutôt spécifiques au trimestre.
Bon, en fait, y a eu un jour, alors c'est vrai que je vous ai donné les taux de croissance organique séquentiels Q1, Q2, H1. Effectivement, sur l'Allemagne, on voit qu'on passe de 5,6 à 3,3. Mais compte tenu du fait qu'il y a un jour ouvré de moins sur le deuxième trimestre, si on restait du jour ouvré de moins, on serait aux alentours de 4,5 probablement. Donc avec un ralentissement qui est vraiment mineur, qui fait un point entre Q1 et Q2. Et qui ne permet pas de tirer de conclusion sur la substance de l'activité. parce que en Allemagne, le taux d'activité, il dépend évidemment de l'activité commerciale, mais il est très lié à la façon dont les projets démarchent chez les clients. Et comme on a de plus en plus de work package sur l'Allemagne, donc des projets à taille unitaire importants, contrairement à d'autres pays, il y a beaucoup de clients, enfin en Allemagne, il y a beaucoup de clients qui, à partir du moment où un accord est donné sur le projet, n'acceptent pas que le projet démarre tant que les formalités administratives ne sont pas réglées. En clair, pour avoir un badge d'accès, par exemple, en France, à partir du moment où on a un accord du client, vous avez les directions techniques qui donnent les instructions en interne, et puis les ingénieurs peuvent démarrer les projets, même si on met 2 mois à récupérer les commandes. D'ailleurs, c'est dommage, parce que si ça avait été le contraire, peut-être qu'on aurait les commandes plus tôt. Mais en Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, les clients donnent leur accord pour le démarrage de projet, et puis finalement, le projet ne démarre pas tout de suite. Il démarre 2 semaines, 3 semaines plus tard, soit parce que le client n'est pas prêt, soit parce que le bon de commande n'est pas validé dans SAP, et que tant que les choses ne sont pas réglées, on ne peut pas démarrer le projet. Donc, on a un aléa sur l'intercontrat en Allemagne qui est assez important et qu'on a du mal à maîtriser et à gérer. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, la croissance est très hétérogène dans l'automobile. On a des constructeurs et des équipementiers pour lesquels on a des taux de croissance très satisfaisants et d'autres pour lesquels on est en décroissance. Mais on ne peut pas globalement considérer que ça vient du secteur auto ou qu'on aurait subi une baisse d'activité dans l'auto au deuxième trimestre. Il n'y a pas de raison, je dirais, marché au fait que la croissance est un peu plus faible sur le Q2.
D'accord. Merci beaucoup.
Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur vos cabines téléphoniques. La question suivante vient de Cyril Almeyer de Reuters. Cyril s'est déconnecté. Nous n'avons pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur vos cabines téléphoniques. Nous n'avons pas d'autres questions.
Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc clôturer la conférence téléphonique. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Et je vous propose de nous retrouver, donc c'est le 20 septembre, pour la publication des résultats semestriels d'Alten. Bonne soirée.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.